de France Culture. Jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
C'est l'année 1962. En février, il y aura les morts de Charonne et en mars, les accords d'Évian. En mai, Marilyn chante pour l'anniversaire du président et mourra en août. Eichmann est pendu en juin. Faulkner et Bataille meurent en juillet, mais Anquetil remporte son troisième Tour de France. En août, l'attentat du Petit Clamart est manqué. Dorénavant, on élira le président au suffrage universel. En octobre, c'est la crise des missiles de Cuba. Françoise Hardy chante « Tous les garçons et les filles », « Beko » et « Maintenant ». En 1962, Marguerite Duras a 48 ans. Elle est un écrivain reconnu, alors que le désir de sa mère était qu'elle devienne professeure de mathématiques. En janvier, elle est l'invitée de « Tous les plaisirs du jour sont dans la matinée ». Elle parle de sa vie, de son travail, de son enfance en Indochine. On entend des extraits de « Barrage contre le Pacifique », « d'Hiroshima, mon amour », de 10h30 du soir en été et du square.
Tous les plaisirs du jour sont dans la matinée. Une émission imaginée et réalisée par José Pivin, qui présente aujourd'hui Marguerite Duras. Des extraits des œuvres de Marguerite Duras, Un barrage contre le Pacifique, Hiroshima, mon amour, et 10h30 du soir en été, ainsi qu'une scène de sa pièce de théâtre Le Square, seront interprétées par Nelly Borjo, Emmanuel Riva, Edith Scob, Hergy Chauffard, René Clermont et Jean Martin. Prise de son, Robert Lavoigna, assistant de production, Jacques Devin.
Au cours de cette heure que nous allons passer avec Marguerite Duras, nous verrons s'élever, au-dessus des brumes quotidiennes, ces évidences encore chaudes des profondeurs humaines que les plus longues attentes ne parviennent pas à affaiblir. Marguerite Duras, pour que nous puissions mieux comprendre à la fois l'effort et le but à atteindre, voulez-vous nous parler des premiers moments où ces notions vous sont apparues, c'est-à-dire de votre enfance?
Eh bien, mon enfance se situe en Indochine. Jusqu'à 9 ans, avec un intermède d'un an en France, et plus précisément jusqu'à 17 ans, tout à fait dans la brousse, où ma mère était veuve et institutrice d'école indigène. Jusqu'à 14 ans, j'ai parlé le vietnamien, peut-être mieux que le français. Quand j'étais en âge de faire des études secondaires, j'étais obligée de me séparer de ma mère, enfin.
Et comment vous sentiez-vous dans ce pays ?
On était très pauvres, alors on ne pouvait pas se sentir tout à fait bien. Enfin, il y avait une colonie blanche très, très omnipotente, et ma mère étant très inférieure dans l'administration française, nous étions plutôt ravalés au rang des indigènes, comme on disait. Donc ça n'a pas été dans les rapports sociaux tout à fait naturels pour moi.
Et ce que vous aviez avec les Vietnamiens ?
Ah, parfait, oui, puisque j'étais élevée parmi eux. Mes meilleurs amis jusqu'à 16 ans ont été vietnamiennes. J'ai été au lycée à Saigon et je ne me souviens pas qu'un Français ait été premier en classe. Peut-être si en philo, il y a eu une Française qui était première en philo, mais jusqu'à la philo, ça a toujours été les Vietnamiens qui remportaient les meilleures places. Ma mère prenait des pensionnaires d'une part et d'autre part elle prenait des jeunes filles vietnamienne qui n'avait pas le moyen de payer sa pension. Elle en prenait en plus des autres et alors la maison était pleine de jeunes filles pauvres et riches, mais enfin, toutes vietnamiennes avec lesquelles j'ai passé mon adolescence complètement. Ma mère n'était pas reçue chez les grands fonctionnaires, tandis que nous étions reçus chez les parents des jeunes filles. C'est très peu de choses, vous savez, être institutrice d'école indigène.
Vous ne pensiez pas ce que vous feriez ?
Je devais être professeur de mathématiques. C'est le désir de ma mère.
Mais en dehors de la question de gagner votre vie, que vouliez-vous faire ?
Je n'en envisageais aucune autre. Nous étions trop pauvres pour que je puisse penser à autre chose que gagner ma vie. C'est une fois ma licence passée que j'ai commencé à penser qu'à côté du travail, je pouvais peut-être faire autre chose.
Et vous avez commencé à écrire à ce moment-là?
Oui, à écrivailler plutôt. J'ai commencé à écrire à 26 ans, 27 ans, un peu tard.
Voici maintenant un extrait d'un des premiers romans de Marguerite Duras, Un barrage contre le Pacifique.
Fille de paysan, elle avait été si bonne écolière que ses parents l'avaient laissée aller jusqu'au brevet supérieur. Après quoi, elle avait été pendant 2 ans institutrice dans un village du nord de la France. On était alors en 1899. Certains dimanches à la mairie, elle rêvait devant les affiches de propagande coloniale. « Engagez-vous dans l'armée coloniale. Jeune, allez aux colonies, la fortune vous y attend. » À l'ombre d'un bananier croulant sous les fruits, le couple colonial, tout de blanc vêtu, se balançait dans des rocking chairs tandis que des indigènes s'affairaient en souriant autour d'eux. Elle se maria avec un instituteur qui, comme elle, se mourait d'impatience dans un village du Nord, victime, comme elle, des ténébreuses lectures de Pierre Loti. Peu après leur mariage, ils firent ensemble leur demande d'admission dans les cadres de l'enseignement colonial et ils furent nommés dans cette grande colonie que l'on appelait alors l'Indochine française. Lorsque son mari mourut, Suzanne et Joseph étaient encore très jeunes. De la période qui avait suivi, elle ne parlait jamais volontiers. Elle disait que ça avait été difficile, qu'elle se demandait encore comment elle avait pu en sortir. Pendant 2 ans, elle avait continué à donner des leçons de français. Puis comme c'était insuffisant, des leçons de français, des leçons de piano. Puis comme c'était encore insuffisant, à mesure que grandissaient ses enfants, elle s'était engagée à l'Eden Cinéma comme pianiste. Elle y était restée 10 ans. Au bout de 10 ans, elle avait pu faire des économies suffisantes pour adresser une demande d'achat de concession à la direction générale du cadastre de la colonie. Son veuvage, son ancienne appartenance au corps enseignant et la charge de ses 2 enfants lui donnaient un droit prioritaire sur une telle concession. Elle avait pourtant dû attendre 2 ans avant de l'obtenir. Il y avait maintenant 6 ans qu'elle était arrivée dans la plaine accompagnée de Joseph et de Suzanne dans cette Citroën B12 qu'ils avaient toujours. Dès la première année, elle mit en culture la moitié de la concession. Elle espérait que cette première récolte suffirait à la dédommager en grande partie des frais de construction du bungalow. Mais la marée de juillet monta à l'assaut de la plaine et noya la récolte. Croyant qu'elle n'avait été victime que d'une marée particulièrement forte et malgré les gens de la plaine qui tentaient de l'en dissuader, l'année d'après, la mer recommença. La mer monta encore. Alors elle dut se rendre à la réalité. Sa concession était incultivable. Elle était annuellement envahie par la mer. Les concessions cultivables n'étaient accordées en général que moyennant le double de leur valeur. La moitié de la somme allait clandestinement aux fonctionnaires du cadastre chargés de répartir les lotissements entre les demandeurs. La juste colère de la mère ne lui épargna pas 2 ans après son arrivée la première inspection cadastrale. Ces inspections, toutes formelles, se réduisaient à une visite au concessionnaire auquel on venait rafraîchir la mémoire. On lui rappelait que le premier délai était passé. Après une première inspection, il y en eut une autre. Elle eut lieu cette année-là, dans la semaine qui suivit l'écroulement des barrages. Mais Joseph était enfin en âge de s'en mêler. Le maniement du fusil lui était devenu familier. Il le sortit sous le nez de l'agent du cadastre qui n'insista pas et s'en retourna dans la petite auto qui servait à ses tournées. Depuis, de ce côté-là, la mère était relativement tranquille. Forte du délai que lui avait valu son bungalow, la mère mit les agents de CAM au courant de ses nouveaux projets. Ceux-ci consistaient à demander aux paysans qui vivaient misérablement sur les terres limitrophes de la concession de construire, en commun avec elle, des barrages contre la mer. Il serait profitable à tous. Il longerait le Pacifique et remonterait le rack jusqu'à la limite des marais de juillet. Les agents, surpris, trouvèrent ce projet un peu utopique, mais ne s'y opposèrent pas. La mer n'avait consulté aucun technicien pour savoir si la construction des barrages serait efficace. Elle le croyait. Elle en était sûre. Elle agissait toujours ainsi, obéissant à des évidences et à une logique dont elle ne laissait rien partager à personne. Le fait que les paysans aient cru ce qu'elle leur disait l'affermit encore dans la certitude qu'elle avait trouvé exactement ce qu'il fallait pour changer la vie de la plaine. Des centaines d'hectares de rizières seraient soustraits aux marais. Tous seraient riches, ou presque. Les enfants ne mourraient plus. On aurait des médecins. On construirait une longue route qui longerait les barrages et desservirait les terres libérées. Une fois les rondins achetés, Il se passa 3 mois pendant lesquels il fallut attendre que la mer fût complètement retirée et la terre assez sèche pour commencer les travaux de terrassement. Le moment propice à la construction des barrages arriva. Les hommes avaient charrié les rondins depuis la piste jusqu'à la mer et ils s'étaient mis au travail. La mer descendait avec eux à l'aube et revenait le soir en même temps qu'eux. Suzanne et Joseph avaient beaucoup chassé pendant ce temps-là. Ça avait été pour eux aussi une période d'espoir. Ils croyaient à ce qu'entreprenait leur mère. Dès que la récolte serait terminée, ils pourraient faire un long voyage à la ville et d'ici 3 ans quitter définitivement la plaine. Le soir, parfois, la mère faisait distribuer de la quinine et du tabac aux paysans et à cette occasion, elle leur parlait des changements prochains de leur existence. Ils riaient avec elle à l'avance de la tête que feraient les agents cadastraux devant les récoltes fabuleuses qu'ils auraient bientôt. Point par point, elle leur racontait son histoire et leur parlait longuement de l'organisation du marché des concessions. Pour mieux encore soutenir leur élan, elle leur expliquait aussi comment les expropriations, dont beaucoup avaient été victimes au profit des poivriers chinois, étaient, elles aussi, explicables par l'ignominie des agents de CAM. Elle leur parlait, dans l'enthousiasme, ne pouvant résister à la tentation de leur faire partager sa récente initiation et sa compréhension maintenant parfaite de la technique concussionnaire des agents de CAM. Elle se libérait enfin de tout un passé d'illusions et d'ignorance, et c'était comme si elle avait découvert un nouveau langage, une nouvelle culture. Elle ne pouvait se rassasier d'en parler. « Des chiens, disait-elle, ce sont des chiens, et les barrages, c'était la revanche. Les paysans riaient de plaisir. » La saison des pluies était arrivée. La mer avait fait de très grands semis près du bungalow. Les mêmes hommes qui avaient construit les barrages étaient venus faire le repiquage du paddy dans le grand quadrilatère fermé par les branches des barrages. 2 mois avaient passé. La mère descendait souvent pour voir verdir les jeunes plants. Ça commençait toujours par pousser jusqu'à la grande marée de juillet. Puis, en juillet, la mère était montée comme d'habitude à l'assaut de la plaine. Les barrages n'étaient pas assez puissants. Ils avaient été rongés par les crabes nains des rizières. En une nuit, ils s'effondrèrent. Les familles que la mère avait installées dans son village de guet étaient parties avec les jonques, les vivres, vers une autre partie de la côte. Les paysans des villages limitrophes de la concession étaient retournés à leur village. Les enfants avaient continué de mourir de faim. Personne n'en avait voulu à la mère.
Pourriez-vous me dire maintenant quand vous avez quitté l'Indochine et ce qui s'est passé pour vous à ce moment-là?
Je suis partie à 17 ans. Jusqu'à la licence, c'était difficile, quoi. J'étais boursière. Enfin, ça a été pas mal pour les études.
Est-ce que la guerre a eu une certaine importance pour vous?
Je pense que ça a été comme pour tout le monde. J'ai eu mon mari déporté, mais... J'ai un frère qui est mort, j'ai un enfant qui est mort du fait de la guerre. Ma belle-sœur qui est morte à Ravensbrück. Enfin, c'est quand il vous arrive des malheurs particuliers, comme la perte d'un frère ou d'un petit enfant parce qu'il n'y a pas d'essence. Mon enfant est mort parce qu'il n'y avait pas d'essence et que le docteur n'a pas pu venir, par exemple. Non, quand il arrive des choses comme ça, le malheur privé l'emporte évidemment sur le reste, mais c'est une chose dont je peux dire que je ne me suis pas remise. Surtout l'aspect nazi, enfin.
Sur la guerre, voici maintenant un extrait de Hiroshima, mon amour, de Marguerite Duras.
Les seuls hommes de la ville étaient allemands. J'avais 17 ans. La guerre était interminable. Ma jeunesse était interminable. Je n'arrivais à sortir ni de la guerre, ni de ma jeunesse. Les morales d'ordre divers brouillaient mon esprit déjà. Le dimanche était pour moi jour de fête. Je dévalais toute la ville en bicyclette pour aller à Aisy chercher le beurre nécessaire à ma croissance. Je longeais la Nièvre. Parfois, je m'arrêtais sous un arbre et je m'impatientais de la longueur de la guerre. Cependant, je grandissais envers et contre l'occupant, envers et contre cette guerre. La rivière me faisait toujours bien plaisir à voir. Un jour, un soldat allemand vint à la pharmacie se faire panser sa main brûlée. Nous étions seuls, tous deux, dans la pharmacie. Je lui pansais sa main comme on m'avait appris, dans la haine. L'ennemi remercia. Il revint. Mon père était là et me demanda de m'en occuper. Je pansais sa main une nouvelle fois en présence de mon père. Je ne levais pas les yeux sur lui comme on m'avait appris. Cependant, le soir de ce jour, une lassitude particulière me vint de la guerre. Je le dis à mon père, il ne me répondit pas. Je jouais du piano. Puis nous avons éteint. Il m'a demandé de fermer les volets. Sur la place, un jeune Allemand à la main pansée était adossé à un arbre. Je le reconnus dans le noir à cause de la tache blanche que faisait sa main dans l'ombre. Ce fut mon père qui referma la fenêtre. Je sus qu'un homme m'avait écouté jouer du piano pour la première fois de ma vie. Le lendemain de ce jour était un dimanche. Il pleuvait. J'allais à la ferme de Aisy. Je m'arrêtai comme d'habitude sous un peuplier le long de la rivière. L'ennemi arriva peu après moi sous ce même peuplier. Il était également en bicyclette. Sa main était guérie. Il ne partait pas. La pluie tombait, drue. Puis le soleil arriva dans la pluie. Il cessa de me regarder, il sourit, et il m'a demandé de remarquer comment parfois le soleil et la pluie pouvaient être ensemble l'été. Je n'ai rien dit. Quand même j'ai regardé la pluie. Il m'a dit alors qu'il m'avait suivi jusque-là, qu'il ne partirait pas. Je suis repartie, il m'a suivi. Un mois durant, il m'a suivi. Je ne me suis plus arrêtée le long de la rivière. Jamais. Mais il y était posté là, chaque dimanche. Comment ignorer qu'il était là pour moi ? Je n'en dis rien à mon père. Je me mis à rêver à un ennemi. La nuit, le jour. Et dans mes rêves, l'immoralité et la morale se mélangèrent de façon telle que l'une ne fut bientôt plus discernable de l'autre. J'eus 20 ans. Un soir, alors que je tournais une rue, quelqu'un me saisit par les épaules. Je ne l'avais pas vu arriver. C'était la nuit, 8h30 du soir, en juillet. C'était l'ennemi. On s'est rencontrés dans les bois, dans les granges, dans les ruines, et puis dans des chambres. Un jour, une lettre anonyme arrivait à mon père. La débâcle commençait. Nous étions en juillet 1944. J'ai nié. C'est encore sous les peupliers qui bordent la rivière qu'il m'a annoncé son départ. Il partait le lendemain matin pour Paris, en camion. Il était heureux parce que c'était la fin de la guerre. Il me parla de la Bavière où je devais le retrouver, où nous devions nous marier. Déjà, il y avait des coups de feu dans la ville, les gens arrachaient les rideaux noirs, les radios marchaient nuit et jour. À 80 kilomètres de là, déjà, des convois allemands gisaient dans des ravins. J'acceptais cet ennemi ici de tous les autres. C'était mon premier amour. Je ne pouvais plus entrevoir la moindre différence entre son corps et le mien. Je ne pouvais plus voir entre son corps et le mien qu'une similitude hurlante. Son corps était devenu le mien. Je n'arrivais plus à l'en discerner. j'étais devenue la négation vivante de la raison. Et toutes les raisons qu'on aurait pu opposer à ce manque de raison, je les aurais balayées. Et comment ? Comme château de cartes. Et comme justement des raisons purement imaginaires. Que ceux qui n'ont jamais connu d'être ainsi dépossédés d'eux-mêmes me jettent la première pierre. Je n'avais plus de patrie que l'amour même. J'avais laissé un mot à mon père. Je lui disais que la lettre anonyme avait dit vrai, que j'aimais un soldat allemand depuis 6 mois, que je voulais le suivre en Allemagne. Déjà, à Nevers, la résistance côtoyait l'ennemi. Il n'y avait plus de police. Ma mère revint. Il partait le lendemain. Il était entendu qu'il me prendrait dans son camion sous des bâches de camouflage. Nous nous imaginions que nous pourrions ne plus nous quitter jamais. On est encore allé à l'hôtel une fois. Il est parti à l'aube rejoindre son cantonnement vers Saint-Lazare. Nous devions nous retrouver à midi sur le quai de la Loire. Lorsque je suis arrivée à midi sur le quai de la Loire, il n'était pas encore tout à fait mort. On avait tiré d'un jardin du quai. Je suis restée couchée sur son corps tout le jour et toute la nuit suivante. Le lendemain, on est venu le ramasser et on l'a mis dans un camion. C'est pendant cette nuit-là que la ville fut libérée. Les cloches de Saint-Lazare emplirent la ville. Je crois bien, oui, avoir entendu. On m'a mise dans un dépôt du Champ de Mars. Là, certains ont dit qu'il fallait me tondre. Je n'avais pas d'avis. Le bruit des ciseaux sur la tête me laissa dans une totale indifférence. Quand ce fut fait, un homme d'une 30aine d'années m'emmena dans les rues. Ils furent 6 à m'entourer. Ils chantaient. Je n'éprouvais rien. Mon père, derrière les volets, a dû me voir. La pharmacie était fermée pour cause de déshonneur. On me ramena au dépôt du Champ de Mars. On me demanda ce que je voulais faire. Je dis que je n'avais pas d'avis, alors on me conseilla de rentrer. C'était minuit. J'ai escaladé le mur du jardin. Il faisait beau. Je me suis étendue afin de mourir sur l'herbe. Mais je ne suis pas morte. J'ai eu froid. J'ai appelé maman très longtemps. Vers 2 heures du matin, les volets se sont éclairés. On me fit passer pour morte. Et j'ai vécu dans la cave de la pharmacie. Je pouvais voir les pieds des gens et la nuit, la grande courbe de la place du Champ de Mars. Je devins folle. De méchanceté, je crachais, paraît-il, au visage de ma mère. Je n'ai que peu de souvenirs de cette période pendant laquelle mes cheveux ont repoussé, sauf celui-ci que je crachais au visage de ma mère. Puis, peu à peu, j'ai perçu la différence du jour et de la nuit, que l'ombre gagnait l'angle des murs de la cave vers 4h30 et que l'hiver, une fois, se termina. Un jour, ma mère est arrivée pour me nourrir comme elle faisait d'habitude. Elle m'a annoncé que le moment était venu de m'en aller. Elle m'a donné de l'argent. Je suis partie pour Paris à bicyclette. La route était longue, mais il faisait chaud. C'était l'été. Quand je suis arrivée à Paris le surlendemain matin, le mot Hiroshima était sur tous les journaux. C'était une nouvelle sensationnelle. Mes cheveux avaient atteint une longueur décente. personne ne fut tendu.
Voulez-vous maintenant nous parler de votre œuvre et nous dire peut-être quel est le premier livre que vous avez écrit?
Le premier, c'est Les Impudents. Ça a paru chez Plon. C'était englué dans des souvenirs desquels je ne pouvais pas me défaire à ce moment-là, mais ensuite ça a été mieux. La vie tranquille, c'est quand même moins mauvais. Le barrage contre le Pacifique. Parce que j'ai mis très longtemps à le faire. Et... c'était pas seulement mon histoire qui était en jeu, mais tout le contexte dans lequel elle s'était passée, c'est-à-dire la misère de cette région que j'ai bien connue, le Cambodge. Alors là, quand même, j'ai essayé de me soustraire à mes propres souvenirs et de les élargir, si vous voulez. Mais en Gibraltar, c'est pour me guérir du barrage. J'en avais tellement assez du souvenir à proprement parler, enfin, que je me suis lancée dans une aventure totalement imaginaire, qui est le marin.
Et ces petits chevaux de Darquigna, pourquoi avez-vous choisi des vacances chaudes et difficiles?
Je ne les ai pas choisies, je les ai vécues. J'avais envie d'écrire tout de suite après les vacances, alors j'ai fait ce livre. Vous savez, on n'écrit pas toujours les livres dans un même élan. Quelquefois, ça met 10 ans à se faire, quelquefois, ça met 6 mois, quelquefois, 1 mois. Là, j'ai écrit Les Petits Chevaux tout de suite après ces vacances-là.
J'ai l'impression que là, en particulier, il y a une sorte de destin qui plane et contre lequel vous n'avez pas tant que ça l'intention de lutter.
Je ne peux pas le dire moi-même, ça. Mais je crois qu'il n'y a pas un être vivant qui ne croit pas à son destin, même s'il ne le dit pas. Bon, j'ai pas une vie très facile, comme tout le monde, plein de difficultés.
Dans votre œuvre, on a l'impression, c'est pas une impression, je crois que c'est peut-être une certitude, que vous voulez faire parler le silence des gens, c'est-à-dire tout ce qu'ils n'ont pas pu exprimer, que des personnes qui sont assez simples, qui n'arrivent pas donc à exprimer un certain nombre de choses, vous leur faites dire ce qu'elles n'arrivent pas à exprimer. Est-ce que c'est un petit peu ça le but de votre œuvre?
Si vous voulez, oui, enfin, ce qui me passionne, c'est ce que les gens pourraient dire s'ils avaient le moyen de le dire, et non pas ce qu'ils disent quand ils en ont tous les moyens.
Est-ce que c'est le résultat d'une étude quelconque?
Oh non. Non, d'un travail simplement, enfin d'une étude, non, je ne peux pas dire, parce que je ne vois pas sur quoi elle serait fondée. Mais le reproche qu'on me fait d'être abstraite et de fabriquer des dialogues vient de là précisément.
Exprimer ce que les autres n'expriment pas, ça ne prouve pas du tout que ce soit quelque chose d'abstrait. Au contraire, c'est peut-être ce qu'il y a de plus vivant.
Oui, mais quand on me dit par exemple que la bonne à tout faire du square ne parle pas naturellement, bien entendu qu'elle ne parle pas naturellement, puisque je la fais parler comme elle parlerait si elle pouvait le faire. Vous comprenez, c'est toujours la même chose. Ça, le réalisme ne m'intéresse en rien. Il a été, je pense, cerné de tous les côtés. Et c'est terminé.
Et vous pensez peut-être que c'est un début de primordiaux actuellement à atteindre, celui justement d'arriver à faire parler tout le monde d'une façon suffisante?
Un d'entre les buts qui comptent pour les écrivains, mais pas le premier.
Et quel serait le premier?
En gros, un changement, enfin un changement d'optique.
Le changement pour le changement?
Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, comme un ennui dans la littérature, oui. Peut-être qu'on peut dire, comme vous dites, le changement pour le changement, dans tous les sens. Et de quel horizon qu'il vienne.
Voici un de ces changements dans le domaine du théâtre, extrait de la pièce de Marguerite Duras, Le Square. Un voyageur de commerce rencontre dans un square une bonne venue accompagner un petit garçon. Ils parlent de tout ce qu'ils n'ont pas encore su exprimer.
Je ne sais pas, monsieur, si le bonheur se supporte mal, ou si les gens le comprennent mal, ou s'ils ne savent pas très bien celui qu'il leur faut, ou s'ils savent mal s'en servir, ou s'ils s'en fatiguent en le ménageant trop, je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on en parle, que ce mot-là existe, et que ce n'est pas pour rien qu'on l'a inventé. Mais il n'y a pas de raison. Je ne peux pas imaginer mourir un jour sans avoir eu mon content. Quitte le soir à le regarder à mon tour avec l'air de madame lorsqu'elle vient me voir.
On vous imagine mal avec des yeux lassés, mademoiselle. Vous l'ignorez peut-être, mais vous avez de bien beaux yeux.
Ils seront beaux, monsieur. À leur temps.
Que voulez-vous quand on pense que vous aurez quelque jour une ressemblance avec cette femme, quelle qu'elle soit, ça décourage un peu.
Il faut ce qu'il faut, monsieur, et j'en passerai par là où ce sera nécessaire. Et après que mes yeux auront été beaux, ils se rempliront d'ombre, comme tous les yeux. C'est mon plus grand espoir.
Quand je vous disais que vos yeux étaient beaux, mademoiselle, je l'entendais surtout par le regard.
C'est sans doute que vous vous trompez, monsieur. Et même si vous ne vous trompez pas, moi, à qui ce regard appartient, je ne peux pas m'en contenter.
Nous sommes d'accord sur le principal, mademoiselle. Encore une fois, quand je vous parlais de cette femme et des gens qui évitent d'être tout à fait heureux, je ne voulais pas dire par là qu'il ne fallait pas pour autant ne pas suivre leurs exemples, ne pas essayer à son tour, et échouer à son tour. Je ne voulais pas dire non plus qu'il fallait se garder d'envie comme celle que vous avez, d'un fourneau à gaz, par exemple, et éviter à l'avance tout ce qui s'ensuivra une fois que vous l'aurez acheté. Le frigidaire et même le bonheur. Je n'ai pas insinué une minute que je mettais en doute le bien fondé de votre espoir. Je le trouve tout à fait légitime, au contraire, mademoiselle, croyez-le.
Mais devez-vous vous en aller, monsieur, pour me parler comme ça?
Mais non, mademoiselle. Je ne voulais pas que vous vous trompiez sur mes paroles, c'est tout.
Votre façon de parler, tout à coup, j'ai cru que quelque chose vous pressait de partir.
Mais non, mademoiselle, rien ne me presse, non. Je vous disais que je vous approuvais tout à fait. Et j'allais ajouter que ce que je comprenais moins bien, encore une fois, c'est quand même que vous acceptiez tout le travail supplémentaire que l'on vous donne, toujours et quel qu'il soit.
Et quand il en serait ainsi?
Non, mademoiselle, non! Rien ni personne, je crois, n'a pour mission de récompenser nos mérites personnels. Surtout ceux obscurs et inconnus. Nous sommes abandonnés.
Mais si je vous dis que ce n'est pas pour ça, mais seulement pour garder toute pure l'horreur de ce métier.
Je m'excuse, mais même dans ce cas, je ne suis pas d'accord. Je crois que vous avez déjà commencé à vivre une vie en réalité, mademoiselle, et qu'il faut vous le répéter, mais inlassablement. Je suis bien ennuyé de vous dire une chose pareille, mais oui, je crois que c'est fait. Que pour vous aussi, le temps passe. Et que déjà, vous le gâchez. Vous le perdez.
Vous êtes gentil, monsieur, de penser à la place des autres avec tant de compréhension.
C'est là, voyez-vous, mademoiselle, l'avantage qu'il y a à ne pas tant espérer.
Un jour, je me suis renseignée. C'était il y a 2 ans. Je peux bien vous le dire, au fond, nous avons parfois dans notre travail à nous occuper de très vieilles femmes, de parfois 82 ans, et qui pèsent jusqu'à 92 kilos, et qui n'ont plus leur raison, et qui font leurs besoins dans leur robe à toute heure du jour et de la nuit, et dont personne ne veut plus entendre parler.
Mademoiselle, 92 kilos, disiez-vous?
Oui, à la dernière pesée, elle a encore grossi. Je vous ferai remarquer que je ne l'ai pas assassinée. Même il y a 2 ans. Elle était déjà bien grosse. Et j'avais 18 ans. Et que je ne l'assassine pas. Toujours pas. Alors que ce serait de plus en plus facile, bien sûr. Puisqu'elle vieillit de plus en plus. Et sa fragilité d'autant, malgré sa grosseur. Qu'elle est seule dans la salle de bain le temps de la laver. Et que la salle de bain est au bout du corridor dont je vous parlais, qui est long comme la moitié de ce square. Et qu'il suffirait de la maintenir sous l'eau 3 minutes pour que la chose soit faite. Et qu'en plus, elle est si vieille que ses enfants ne verraient plus grand inconvénient à sa mort. Ni elle-même d'ailleurs, qui ne sait plus rien de rien. Et je vous ferai remarquer que non seulement je ne le fais pas, mais que je m'en occupe bien. Toujours pour la même raison que je vous ai dite. Encore une fois, parce que si je l'assassinais, cela voudrait dire que j'envisage dans les choses possibles que ma situation pourrait en être améliorée, pourrait devenir supportable tout court. Et si je m'en occupais mal, outre que cela serait également contraire à mon plan, il s'en trouverait toujours pour s'en occuper bien. Encore une fois, excusez-moi.
Je tiens à un fil, vous comprenez? Je tiens à moi-même par un fil. Alors la vie m'est plus facile qu'à vous. Tout est là, au fond. Et je peux me passer de savoir certaines choses. Une fois dans ma vie, un certain jour, je n'ai plus voulu vivre du tout. J'avais faim. Et comme je n'avais plus rien ce jour-là, il fallait absolument, pour manger à midi, que je travaille. Tout comme si je n'y étais pas habitué, eh bien, ce jour-là, je n'ai plus voulu vivre parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de raison pour que ça continue encore pour moi comme ça continuait pour tout le monde. Ouais. J'ai mis un jour entier à m'y réhabituer. Et puis, ça a recommencé comme par le passé. Avec cette différence, cependant, que depuis ce jour-là, les perspectives d'avenir quelconque me fatiguent. Beaucoup plus qu'avant.
Ce pays, monsieur, qui vous a fait tellement plaisir à voir, y êtes-vous allé avant ou après ce jour-là?
Après. Et quand j'y pense, ça me fait plaisir et je trouve qu'il aurait été dommage qu'un homme de plus ne le connaisse pas. Mais peut-être en fin de compte ne sommes-nous en désaccord que sur ce que nous avons décidé de faire ou de ne pas faire de notre temps.
Pas seulement, monsieur, puisque je n'ai pas encore eu l'occasion de me fatiguer de quoi que ce soit, excepté d'attendre, bien sûr. Comprenez-moi, monsieur, rien n'est commencé pour moi, à part que je suis en vie. Ici, parfois, quand il fait très beau, en été, par exemple, j'ai le sentiment que peut-être la chose se commence tout en n'en ayant pas l'air. J'ai peur. Oui, j'ai peur de me laisser aller au beau temps.
Mais mademoiselle, il m'avait semblé que vous aimiez ce petit garçon.
Cela est égal, je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas commencer à ne pas me déplaire dans cet état. Et même à le supporter un peu mieux. Parce qu'alors, encore une fois, je suis perdue. J'ai beaucoup de travail, et je le fais. Et si bien qu'on m'en donne chaque jour un peu plus qu'on ne devrait. Et je le fais. Et si naturellement qu'on finit par m'en donner de pénible même. Mais je ne dis rien, et je l'ai fait. Parce que si je ne les faisais pas, si je les refusais, cela voudrait dire que j'envisage dans les choses possibles que ma situation pourrait en être améliorée, pourrait devenir supportable tout court.
C'est quand même singulier, mademoiselle, d'être en mesure de s'adoucir la vie et de le refuser.
Ah oui, monsieur, mais je ne refuse rien. Je n'ai jamais rien refusé de faire de ce qu'on me demandait. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours tout accepté. Docilement. Tout et tout. Afin un jour de ne plus pouvoir supporter rien. J'étais une petite fille comme les autres. Rien apparemment ne me distinguait d'elle. À l'époque des cerises, nous en volions ensemble. Nous en avons volé jusqu'au dernier jour. C'est à cette saison-là que l'on m'a placée. Dites voir encore, monsieur, à part tout ce que vous m'avez déjà dit.
J'en ai volé aussi, tout comme vous. Et rien ne me distinguait des autres. À part le propriétaire de l'hôtel, parfois il y a une radio nouvelle. Ah, c'est très important. Un café sans musique qui devient un café avec de la musique. Alors naturellement, il y a beaucoup plus de monde et il reste plus tard. Ça fait de bonnes soirées de gagner.
De gagner?
Oui.
Ah, monsieur, si j'avais su, je me serais débattue, je me serais sauvée. J'aurais supplié ma mère. Je l'aurais supplié si bien.
Mais nous ne savions pas.
La saison des cerises a continué jusqu'à la fin, comme les autres années.
Moi, très tard, je les ai cueillies. Le plus tard qu'il est possible dans une vie d'homme. Et voyez.
Parlez-moi encore des cafés pleins de monde où on fait de la musique.
Sans eux, je ne pourrais pas vivre, mademoiselle. Je les aime beaucoup.
Je crois que moi aussi, je les aimerais beaucoup. Je serai là au comptoir, au bras de mon mari, et nous écouterons la radio. On nous parlera de choses et d'autres et nous répondrons. Nous y serons à la fois ensemble et avec les autres.
Ah, j'oubliais. Parfois, quelqu'un vous regarde.
Je vois. Et s'approche?
Et s'approche, oui.
Sans raison?
Sans raison.
Et alors?
Ah, mais alors là, la conversation prend un tour moins général.
Et alors, monsieur? Et alors?
Je ne reste jamais plus de 2 jours dans chaque ville, mademoiselle. 3 au maximum. Les objets que je vends ne sont pas d'une telle nécessité.
Lorsque vous étiez à Paris, est-ce que vous aviez des entrées en contact avec tous ces milieux que vous décrivez? Ce milieu de bonnes, de commis voyageurs et d'autres, enfin.
Mais non. Non, mais comme vous, je suis une bourgeoise et j'ai eu des bonnes à la maison. Pas plus. Avec comme référence commune, si vous voulez, une misère dans l'enfance. Une difficulté. Plus grande, peut-être, que d'ordinaire.
Et est-ce que le changement que vous avez voulu apporter dans le square est, d'après vous, plus dans la forme, peut-être, que dans le fond?
Oh, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Oui, au fond.
La forme et le fond. Tout le square est dans la forme. Si vous l'entendez pas comme ça, enfin... C'est... Parce qu'elle pourrait dire ces choses qu'elle dit très très simplement, d'une façon argotique. Mais c'est vraiment dans cette espèce de cérémonial de langage qu'elle le dit. Donc, c'est exactement la même chose, mais dit différemment. Si vous voulez, c'est ça le changement du square.
D'avoir fait parler d'un certain cérémonial, c'est une bonne chose, parce que ça donne une noblesse à ce qu'elle dit, la bonne et le commis voyageur.
Enfin, j'ai essayé. J'ai essayé que ce soit mieux que si elle le disait argotiquement.
Et peut-on parler un petit peu aussi de cinéma? Comment êtes-vous entré en contact avec le cinéma?
Avec Hiroshima, mon amour. C'est René qui avait besoin d'un scénariste, alors il est venu me demander ça. Un script, quoi. Alors je l'ai fait. Ça s'est fait très simplement. Et un peu en cachette. Je pense que, d'ailleurs, je regrette un peu ça. Cette espèce de travail en douce qu'on faisait, René et moi. Ça paraît miracle en Alabama, je voyais tous les jours parler de ça dans les journaux, par exemple. C'est gênant, quoi.
Si vous le voulez bien, nous allons maintenant abandonner le cinéma et revenir à vos romans, et en particulier à celui que vous avez intitulé « À 10h30 du soir, en été », dont voici quelques extraits. Un jeune ménage vient d'arriver dans un hôtel surpeuplé en Espagne. Il y a avec eux Judith, leur petite fille, et Claire, une amie amoureuse du mari. Dans cette ville, un crime vient d'être commis et un orage approche.
Il n'est pas beaucoup plus tard que 10h du soir. L'heure est dépassée à laquelle elle aurait dû les rejoindre dans la salle à manger, arriver, s'introduire entre leurs regards, s'installer et leur redire une nouvelle fois encore cette surprenante nouvelle. On m'a dit que Rodrigo Paestra est caché sur les toits de la ville.
Elle quitte le balcon, pénètre dans le couloir et s'allonge auprès de Judith endormie. La sienne. La forme sienne parmi toutes les autres d'enfants du couloir. Elle l'embrasse doucement sur les cheveux. Ma vie, dit-elle. L'enfant ne se réveille pas. Elle remue à peine, soupire et retombe dans un calme sommeil. Quelques-uns parlent encore de Rodrigo Paestra, dont la femme a été trouvée nue près de Pérez, tous deux endormis après l'amour. Et puis, mort. Le corps de 19 ans est à la mairie. Si Maria se levait, si Maria allait à la salle à manger, elle pourrait demander qu'on lui apporte un verre d'alcool. Elle imagine la première gorgée de manzanilla dans sa bouche et la paix de son corps qui s'en suivrait. Elle ne bouge pas.
Par-delà le couloir, à travers l'écran jaune et vacillant des lampes à pétrole, il doit y avoir les toits de la ville, recouverts par le ciel qui court, s'épaississant toujours.
Le ciel est là, contre le cadre du balcon ouvert. Maria se relève, hésite à repartir vers la salle à manger, où ils sont encore dans l'émerveillement de leur foudroyant désir. Seule encore au milieu des tables des fêtes et des garçons harassés qui attendent leur départ et qu'ils ne voient plus. Elle repart vers ce balcon, fume une cigarette. La pluie n'est pas encore revenue. Elle tarde. Le ciel la couvre encore, mais il faut attendre. Voici enfin l'averse. En quelques secondes, elle remplit les rues. La terre est trop sèche et n'arrive pas à boire tant de pluie. Les arbres de la place se tordent sous le vent. Maria voit leurs cimes apparaître et disparaître derrière les arêtes des toits. Et lorsque les éclairs illuminent la ville et la campagne, dans leur blême clarté, dans le même temps, elle voit la forme fixe et noyée de Rodrigo Paestra, agrippée autour d'une cheminée de pierre sombre.
L'averse dure quelques minutes. Le calme revient en même temps que s'amollit la force du vent. Une vague lueur, à force de l'attendre, tombe du ciel apaisé. La recherche policière recommence. Les voici qui reviennent, avec l'apaisement du ciel. Ils avancent dans la boue, toujours. Maria se penche au-dessus de la rampe du balcon et les voit. L'un d'entre eux rit. Toute la ville résonne des mêmes coups de sifflet régulièrement espacés. Simple relais de l'attente encore qui va durer jusqu'au matin.
D'autres balcons que celui-ci où se tient Maria s'étagent sur la façade nord de l'hôtel. Ils sont vides, sauf un seul. Un seul, à la droite de Maria, à l'étage supérieur. Ils doivent y être depuis très peu de temps. Maria ne les a pas vus arriver. Elle recule légèrement dans l'embrasure du couloir où maintenant les gens dorment. Ça doit être la première fois qu'ils s'embrassent. Maria éteint sa cigarette. Elle les voit se détacher de toute leur hauteur sur le ciel en marche. Tandis qu'ils l'embrassent, les mains de Pierre sont sur les seins de Claire. Sans doute se parlent-ils, mais très bas. Ils doivent se dire les premiers mots de l'amour. Ils leur montent aux lèvres, entre deux baisers, irrépressibles, jaillissants. Les éclairs rendent la ville livide. Ils sont imprévisibles, arrivent suivant un rythme désordonné. Lorsqu'ils se produisent, ils rendent leurs baisers livides aussi, ainsi que leur forme, maintenant unique jusqu'à l'aveuglement. Est-ce sur ses yeux, derrière l'écran du ciel noir, qu'il l'aura d'abord embrassée? On ne peut pas le savoir. Tes yeux avaient la couleur de ta peur de l'après-midi, la couleur de la pluie en ce moment même. Claire, tes yeux, je ne les vois qu'à peine. Comment l'aurais-je déjà remarqué? Tes yeux doivent être gris.
Devant ces baisers, à quelques mètres d'eux, Rodrigo Paestra, enveloppé dans sa couverture brune, attend que passe la durée infernale de la nuit. À l'aurore, c'en sera fait. Une nouvelle phase de l'orage se prépare qui va les séparer et qui va priver Maria de les voir.
Tandis qu'il le fait, elle le fait aussi. Elle porte ses mains, ses seins solitaires. Puis ses mains retombent et s'accrochent au balcon, sans emploi. alors qu'elle s'était avancée trop avant sur ce balcon, lorsqu'ils étaient confondus dans cette forme unique jusqu'à l'aveuglement. Elle se recule maintenant un peu en deçà du balcon, vers le couloir où déjà le vent nouveau s'engouffre dans les verres de lampe. Non, elle ne peut pas se passer de les voir. Elle les voit encore. Et leurs ombres sont sur ce toit. Voici que leur corps se décèle. Le vent soulève sa jupe. Dans un éclair, ils ont ri. Ils ne savent pas. Ils sont encore dans l'ignorance que l'orage va les séparer pour la nuit. Il faut attendre encore. Et tant l'impatience de l'attente grandit qu'elle atteint son comble. Et voici, un répit se produit. Une main de pierre est partout sur ce corps d'autre femme. L'autre main la tient serrée contre lui. La chose faite pour toujours. Il est 10h30 du soir. L'été. Le vent augmente, s'engouffre dans les couloirs et passe sur les formes des enfants endormis. Une lampe s'est éteinte, mais rien ne les réveille. La ville est noire et dort. Dans les chambres, le silence s'est fait. La forme de Judith est sage. Ils ont disparu du balcon si soudainement qu'ils étaient arrivés. Il a dû l'entraîner sans la lâcher. Comment le pourrait-il, dans l'ombre d'un couloir endormi? Le balcon est déserté. Maria regarde une nouvelle fois sa montre. Il est presque 11h. Sous le coup du vent qui augmente toujours, une forme d'enfant, ce n'est pas celle-là, pousse un cri isolé, se retourne et retombe dans le sommeil. Et voici la pluie. Et de nouveau son odeur ineffable, odeur terne des rues d'argile. Sur la forme morte de Rodrigo Paestra, morte de douleur, morte d'amour. La pluie tombe, de même que sur les champs. Où ont-ils pu trouver à se rejoindre ce soir dans cet hôtel? Où lui enlèvera-t-il cette jupe légère, ce soir même? Qu'elle est belle. Que tu es belle, Dieu que tu l'es. Leurs formes ont disparu complètement de ce balcon avec la pluie. Dans la pluie des rues, l'été, dans les cours, dans les salles de bain, dans les cuisines, l'été, partout. Il est partout, l'été, pour leur amour. Maria s'étire, s'allonge dans le couloir, s'étire encore. Est-ce fait maintenant? Dans un autre couloir noir, étouffant, il n'y a peut-être personne qui les connaît tous. Celui qui se trouverait dans le prolongement de leur balcon, par exemple, au-dessus exactement de celui-ci, dans ce couloir miraculeusement oublié, le long du mur, par terre. Est-ce fait? Demain arrivera dans quelques heures. Il faut attendre. L'averse est plus longue que la précédente. Elle continue à tomber avec force. Et sur la verrière aussi qui résonne affreusement dans tout l'hôtel. On t'a attendu, Maria, dit Pierre. Ils sont arrivés avec la fin de l'averse. Elle a vu leur ombre s'avancer vers elle alors qu'elle était allongée près de Judith. Ombre immense. La jupe de Claire gonflée aux hanches se soulève des genoux. Le vent du couloir. Trop vite. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps entre leur départ du balcon et leur arrivée auprès de Maria. Il sourit. L'espoir était donc insensé. L'amour ne s'est pas fait ce soir dans cet hôtel. Il faut attendre encore tout le restant de la nuit.
Pourriez-vous nous dire maintenant ce que vous trouvez beau dans la vie ou du moins agréable?
J'ai une maison à la campagne que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai? Un enfant que j'adore. Des amis que j'adore.
Vous pourriez laisser supposer que vous trouvez que le monde est bien fait à ce moment-là.
Bien sûr. La question ne se pose pas, il est fait.
Et vous ne vous laissez jamais entraîner par de sortes de violences?
Dans mon écriture?
Oui, ou même autrement.
Politique, oui. Je me demande comment on peut éviter de faire de la politique, se désintéresser de la situation politique française.
Comment envisagez-vous l'évolution du monde?
Je ne vois pas pourquoi elle varierait de sens. Elle serait peut-être plus rapide, plus accélérée, suivant un rythme un peu plus tremblant, un peu plus terrifiant, mais je ne vois pas un sens nouveau qu'elle pourrait prendre.
Et un sens souhaité?
Révolutionnaire, dans le sens, l'acception la plus large du terme. C'est un nettoyage de tous les préjugés les plus communs.
Tous les plaisirs du jour sont dans la matinée. Une émission imaginée et réalisée par José Pivin, qui présentait aujourd'hui Marguerite Duras. Des extraits des œuvres de Marguerite Duras, Un barrage contre le Pacifique, Hiroshima mon amour et 10h30 du soir en été, ainsi qu'une scène de sa pièce de théâtre Le Square, étaient interprétées par Nelly Borgeau, Edith Scob, Emmanuel Riva, Hergy Chauffard, René Clermont et Jean Martin. Prise de son Robert Lavoignat, assistant de production Jacques Devin.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 20 janvier 1962. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.